Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour cette édition de 17h. Nous sommes lundi 17 mai 2021. Vous êtes en compagnie de Rukayat Abdrahman. Pour cause d'attaques récurrentes, des individus armés non identifiés, des ressortissants de la commune d'Anzourou vident leur village pour se réfugier dans le chef-lieu de la région Tillabéri. À suivre dans un instant les témoignages de quelques personnes déplacées. Lancement ce matin à Niamey de la plateforme dénommée Médias et Démocratie Sahel par les journalistes issus des sociétés civiles françaises et africaines. Olivier Piau, le fondateur, explique la démarche dans ce journal. Dans la rubrique de chaque lundi consacrée à la justice en partie magazine, vous suivrez Sidiku Moussa, le président de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, sur l'un des quatre principes fondamentaux des droits de l'enfant. De nombreux ressortissants de la commune rurale d'Anzourou sont arrivés vendredi dans le chef-lieu de la région Tillabéri. Ces personnes ont fui les attaques des hommes armés non identifiés. Pour ces personnes, elles n'entendent pas retourner dans leur localité malgré le souhait des autorités. Elles s'expriment au micro de notre correspondant Boubacar Oumarou.
Nous avons quitté parce que nous ne sommes pas secourus. Lorsqu'ils sont venus à Ziban, à Gadebo et à Kotigi, ils ont tué tous les gens qui sont sortis de leur maison. Ils ont aussi tué environ 7 personnes qu'ils ont trouvés dans leur maison. Cela ne nous a pas fait peur, car nous avons pensé que nous allons être secourus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on nous demande de rester dans nos villages. Ce n'est pas possible.
La situation est plus forte que nous. Nous sommes écœurés de ce qui s'est passé cette année. Nous leur avons payé les impôts. Ils sont revenus. Ils sont partis avec tous nos animaux. Ils sont encore revenus pour tuer des gens. Ils ont brûlé tous les greniers. Hey, un être humain, même s'il vit dans un territoire qui n'est pas le sien, on ne doit pas le tuer. Lui arracher son bétail, brûler sa nourriture. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, nous ne comprenons pas ce qui se passe.
Les moyens qu'il dit, lui le gouverneur, mettre à notre disposition, c'est la nourriture et les habits. Car cette année, nous ne pouvons que rester à Tillabéri.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, dans son analyse situationnelle trimestrielle du 31 mars 2021, démontre une perturbation des services sociaux essentiels de base de la région de Maradi, une insécurité alimentaire doublée de pertes de moyens de subsistance à Difa et des dynamiques de conflits à Tawa. Refika Taher pour les détails.
Dans la région de Maradi, la recrudescence des attaques criminelles a impacté de façon considérable les services sociaux de base. 12 écoles ont été fermées sur la période 2019-2020. En mars 2021, seulement la moitié des écoles fermées a ouvert. Aussi, les résultats du dernier cadre harmonisé de janvier-mars 2021 indiquent qu'environ 328 000 personnes dans la région sont en crise d'insécurité alimentaire. À cela s'ajoute le dysfonctionnement des marchés et les restrictions des mouvements des personnes et de leurs biens. La région de Difa, à peu près 148 000 personnes sont en crise d'insécurité alimentaire. La situation alimentaire projetée en juin-août 2021 des personnes durant cette période est d'environ 368 000, écrit OCHA. Enfin, dans la région de Tawa, depuis deux décennies, les violences armées se développent dans les zones rurales. 400 cas d'incidents ont été enregistrés dans la région, notamment dans les départements de Tilia, Tassara et de Tawa. Le département de Tilia a lui seul en compte pour 70%. De façon générale, de la région, la tendance à l'augmentation du nombre de personnes en situation de déplacement à cause des attaques et les intimidations continues des gangs ont fait passer le nombre des déplacés internes de 23 000 à la fin 2019 à plus de 55 000 en janvier 2021.
Médias et démocratie, une plateforme des journalistes issus des sociétés civiles françaises et africaines fondée en 2015, a lancé ce matin à Niamey sa branche dénommée Médias et démocratie Sahel. Selon Olivier Piau, le fondateur de Médias et démocratie, l'objectif visé à travers la création de ce bureau de Niamey est de contribuer à la formation des journalistes nigériens. On l'écoute au micro de Tarnan Fouda Ahmed.
Je me réjouis sincèrement que ce grand pays qu'est le Niger soit le premier d'Afrique subsaharienne où médias et démocratie puissent s'installer. D'ici à quelques mois, de jeunes journalistes nigériens se rendront à Tunis, Nouakchott, Bordeaux et Marseille pour échanger avec leurs confrères français et africains. Pour l'avenir des médias au Niger, que l'idée de médias et démocratie, c'est de réfléchir tous ensemble, entre confrères, consoeurs, à l'évolution de nos métiers. Ça veut dire que sur cette plateforme, on n'est plus nigérien, on n'est plus français, on n'est plus mauritanien. On est des journalistes. Et on prépare l'évolution du monde de demain avec les médias et avec les règles qui sont les nôtres, c'est-à-dire le professionnalisme, la compétence et l'éthique.
Le journaliste nigérien Moussa Ksar a été désigné comme le président du tout nouveau bureau Médias et Démocratie Sahel. Parlons santé, parlons de la fistule obstétricale. Selon le ministère de la Santé, le Niger ne dispose pas de données d'envergure nationale sur la prévalence de la fistule. Cependant, il estime le nombre de nouveaux cas à environ 750 par an. Madame Traoré Salamatou, présidente de l'ONG Dimol, estime que la fistule n'est pas une fatalité. Elle est au micro de Fantachance.
La fistule obstétricale ou génitale, comme nous l'appelons, c'est une communication qui s'effectue lors d'un accouchement difficile entre la vessie et le vagin ou entre la vessie, le vagin et le rectum. Donc, elle dégage une mauvaise odeur du fait, évidemment, des matières fécales ou des urines, mais aussi une perturbation de tout son système de santé. La plupart, ce sont des jeunes filles. C'est surtout celles qui ont 15-19 ans, c'est-à-dire lors du premier accouchement. Le second, c'est celles qui ont eu plusieurs maternités multiples et rapprochées. Il y a beaucoup de chances de guérir. Il suffit de prendre des soins appropriés par la pose d'un cathéter pour évacuer la vessie, qu'elle puisse se cicatriser d'elle-même. Mais si elle est compliquée, il y a aussi la chirurgie réparatrice.
L'autonomisation de la femme et de la jeune fille, c'est le thème choisi pour une rencontre à Niamey par le réseau des femmes entrepreneurs du Niger pour la célébration de l'édition 2021 de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai. Pour la présidente de ce réseau, les femmes doivent entreprendre pour avoir cette autonomisation. On écoute la présidente, Madame Maïga Zalika Moumouni.
L'activité a été organisée pour la Journée de la femme nigérienne. Donc le thème choisi, c'est l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Parce que toutes les femmes cherchent à être autonomes. Pour avoir l'autonomisation de la femme, il faut entreprendre. Il faut créer des entreprises. Il faut innover. Il faut beaucoup travailler. Parce que l'argent, ça se cherche. Il y a des mutuelles qu'on a invitées qui sont venues expliquer aux femmes comment avoir des crédits dans les mutuelles pour vraiment faire leurs produits, assister à des foires, faire des dépôts partout. Parce que nous, on a des exemples. Nous avons pris des prix un peu partout. Donc on sait que la Nigérienne est capable et elle peut aller n'importe où. Elle peut avoir des prix. Donc on les encourage à faire des produits de qualité, avoir de bons emballages pour les produits. Et là, vraiment, on n'a peur de rien. Donc j'encourage les femmes à beaucoup travailler, de ne pas rester sans entreprendre. Je pense qu'elles peuvent bien réussir.
Propos recueillis par Michel Déji. Les étudiants de l'Université d'Ottawa étaient ce matin devant le gouvernorat de la région pour rencontrer l'autorité. Une rencontre qui a tourné en échauffouré entre les forces de l'ordre et ses étudiants. Ces étudiants exigent de meilleures conditions de vie et d'études. Amadou Issoufou Mohamed, le secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université d'Ottawa, au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Ce matin, le comité exécutif accompagné de sa base a fait une sortie en tout cas pacifique. C'était suite à l'épuisement d'un ultimatum que nous avons jugé utile de lancer après notre assermentation parce qu'on a trouvé des multiples problèmes auxquels les camarades sont confrontés. C'est des problèmes qui demeurent pour des chambres qui sont conçues pour 3-4 camarades. Vous allez trouver 20 voire 30 camarades. Il y a la question des infrastructures. Aujourd'hui, c'est une triste réalité à l'Université d'Ottawa. Il y a un manque d'infrastructures où, pour des manques de salles, les camarades, les enseignants étaient obligés de suspendre des cours magistraux. On a deux salles de 250 places qui sont en construction depuis 2013. Nous sommes dans quel genre de pays où construire une salle peut prendre 7 voire 8 ans? C'est des réalités, c'est des problèmes qui sont là. On a jugé utile de faire une marche pacifique. On était parti au gouvernorat pour que le gouverneur là puisse nous entendre. Et voilà, on a reçu des gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre.
La société civile d'Arlit toujours vent debout contre les mesures prises par la Comunac après la cessation des activités de la mine d'uranium. Les OSC viennent d'adresser le 9 mai une lettre au président de la République, Mohamed Bazoum, pour fustiger la façon dont la société Comunac veut indemniser ses agents et non les sous-traitants. Ramar Ilatoufet, membre de la coordination de la société civile d'Arlit, au micro d'Ousmane Omar.
Nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République pour l'alerter sur la question de la fermeture de la Comunac. Nous avons évoqué les problèmes qui se posent face à cette fermeture. Donc, il y a un certain nombre de préoccupations que nous avons soulevées au président Bazoum. La première préoccupation que nous avons soulevée, c'était celle des travailleurs sous-traitants qui sont au nombre de 800 qui vont devoir cesser le travail et qui n'ont rien eu en compensation face à cette fermeture, contrairement à leurs camarades avec lesquels ils ont travaillé toute la vie de Cominac, qui eux, les 600, eux bénéficient des primes allant de 10 millions à 60 millions comme prime de fermeture. Pour les 800 autres sous-traitants, ils ne bénéficient de rien du tout, ils vont partir comme ça, sans rien. C'est vrai qu'il y a quelques embryons de solutions qui ont été proposées pour cela, mais nous estimons que c'est complètement insignifiant ce qui a été fait pour ces 800 travailleurs.
Au Niger, selon les prévisions faites cette année à la veille de la saison des pluies par les experts, il est prévu une saison des pluies excédentaire à tendance normale. Elle sera marquée aussi par un démarrage globalement normal avec une tendance précoce et une fin tardive. Selon le directeur de la météorologie, Katiala Gaptia, les prévisions montrent que la saison débutera en juin pour finir en septembre. On l'écoute au micro de Nafis Adam Sirf.
Cette année, il est prévu quand même, comme l'année dernière, une prévision excédentaire sur la majeure partie du pays. Ça veut dire que si ça s'est produit, il y aura des précipitations plus que la moyenne, donc pratiquement avec une tendance normale. Pour le démarrage de la saison, vous avez la légende ici qui part de mai jusqu'à juillet. La saison s'installe d'abord au sud-ouest et après ça va aller vers le nord. Et ça suit le déplacement, n'est-ce pas, du front tropical. Nous avons également des séquences sèches normales en général sur l'ensemble du pays en fin de saison. Mais en début de saison, nous attendons à des séquences sèches plus longues, à tendance normale. Après, donc, la pluie risque de se concentrer vers les fin juillet, août et éventuellement début septembre. Donc, on peut justement s'attendre à des inondations. Je ne dirais pas que c'est la même ampleur que l'année passée, mais on peut avoir un peu le schéma de l'année passée en termes donc, de fortes pluies qui vont tomber. Maintenant, pour la fin de saison, ça fait jusqu'à 30 septembre. Même à la fin du mois d'août, il y a des zones où la pluie s'arrête.
Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant définit l'intérêt supérieur de l'enfant comme toute décision qui prend en compte les aspirations d'un enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant fait partie des quatre principes fondamentaux des droits de l'enfant. Sidiku Moussa, président de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, explique au micro de Balkis Hamidou.
Qu'est-ce qu'on entend par intérêt supérieur de l'enfant?
Avant de parler de l'intérêt supérieur de l'enfant, vous me permettez d'abord de vous parler de l'enfant en tant qu'être humain. L'enfant, comme l'a défini la Convention relative aux droits de l'enfant, tout comme l'Acte africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant, c'est tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans. Pour revenir à l'article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est toute décision que nous devrons prendre qui doit tenir compte de ce principe sacro-saint. L'article 3, comme vous l'avez évoqué, fait partie de ce qu'on appelle les principes fondamentaux des droits de l'enfant, ou si vous voulez, les principes indérogeables. Eh bien, il y a quatre piliers principaux qui fondent ou qui sous-tendent les droits de l'enfant de manière générale. Et le principe, comme édicté par l'article 3 de la Convention, est un principe central. Aujourd'hui, quelles qu'en soient les décisions qu'un État a à prendre, que ce soit des décisions d'ordre programmatique, d'ordre budgétaire, d'ordre politique, qui revêt aussi un caractère, par exemple, de droit, le principe qui devrait nous régir, c'est d'abord tenir compte, est-ce que cette décision, en la prenant, nous prenons en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cas, par exemple, des répudiations ou des divorces, la question de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être le principe qui doit fonder la décision, en tout cas du juge.
Est-ce qu'il y a des critères permettant de juger de ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant ou bien cette notion est basée sur l'interprétation du preneur de décision?
C'est celui qui doit prendre la décision qui a cette plénitude de la décision. Et c'est généralement les acteurs souvent de la chaîne pénale, c'est également l'administration. Ce qui s'est passé par exemple au niveau de l'école Pays-Bas suite à l'incendie où les enfants en tout cas ont perdu la vie, eh bien s'il y a une décision qu'il faille prendre, c'est que plus jamais, par exemple les classes payotes, là on prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a des décisions dans lesquelles par exemple le juge ou en tout cas celui qui doit prendre la décision a aussi une obligation de respecter l'opinion par exemple de l'enfant. Je prends juste un exemple banal. Nous avons l'habitude d'avoir des cas où des enfants fuient quand ils sont retrouvés, ils refusent de rentrer chez eux dans la famille biologique. Parce qu'en réalité, la famille biologique ne crée pas les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir. Le juge, de manière souveraine, ou en tout cas celui qui doit prendre la décision, doit apprécier cette situation-là et tenir compte, effectivement, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et il y a même des cas où, suite à des décisions de justice, on peut placer l'enfant dans un centre d'accueil. Ça veut dire qu'on a respecté son opinion en disant « Ok, je ne reste pas là ».
Le harcèlement sexuel de la femme au travail, gestion et prévention des cas, c'est le thème du forum de ce soir avec Fatih Zakari. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.